BW. Vue d'Allemagne.
Les élections européennes ont rebattu les cartes du Parlement européen. Les groupes parlementaires conservateurs et social-démocrates qui régnaient en maître sur l'hémicycle ont perdu du terrain au profit d'autres alliances libérales, nationalistes ou écologistes. L'urgence climatique a mobilisé de nombreux jeunes à travers l'Europe et notamment en Allemagne. On en parle dans un instant avec Claire Sayour de l'organisation Police 180. Certains dirigeants européens ne sont pas sortis indemnes de ce rendez-vous électoral. Par exemple, Sébastien Kurz en Autriche, renversée un jour après le vote. En Grèce, le parti Syriza d'Alexis Tsipras a été battu aux élections européennes, mais aussi aux municipales et régionales qui avaient lieu en parallèle. Nous verrons les conséquences de ce vote-sanction avec notre correspondant Thomas Jacobi. Voilà pour le sommaire de Vue d'Allemagne, willkommen et bienvenue. ...51% de participation aux élections européennes, on n'avait pas vu ça depuis 25 ans. En Allemagne, le taux de participation a même dépassé les 61%, un record pour des élections réputées peu mobilisantes. Un des principaux défis du vote était la participation des jeunes de moins de 30 ans, parmi lesquels les primo-électeurs, ces jeunes qui votent pour la première fois et qui représentent entre 5 et 8% des 400 millions de citoyens européens. Ils sont difficiles à motiver et pourtant... ils sont intéressés par la politique, pour peu qu'on la leur explique. C'est ce qu'a constaté Claire Sayour, qui nous accompagne dans la première partie de ce magazine.
Je m'appelle Claire Sayour, je suis la coordinatrice de la campagne Jung und Wählerisch, jeune et exigeant, chez Police 180, qui est un jeune laboratoire d'idées sur la politique européenne et la politique étrangère. Nous sommes allés dans les écoles, nous avons organisé 25 workshops dans des lycées professionnels et techniques dans la région de Berlin et Brandenburg pour commencer un dialogue. Les workshops étaient organisés par des jeunes qui avaient eux-mêmes entre 20 et 25 ans, 28 ans peut-être, et qui étaient volontaires pour y aller. Et ça, c'est vraiment le moyen et le lieu d'entrer dans un dialogue avec les gens pour leur expliquer... voilà les processus politiques, voilà comment ça se passe, voilà comment vous obtenez une loi qui va arriver en Allemagne, qui va arriver chez vous et qui va faire ça, ça et ça. Et c'est important que vous décidiez de qui décide, de comment est-ce qu'on va décider ce qui va se passer dans votre ville, dans votre région, dans votre pays.
Dans le cadre du projet Jung und Wählerisch, l'organisation Police 180 a accompagné environ 500 élèves de 12 établissements dans la région de Berlin. Partout, un même constat, l'éducation civique est la grande oubliée du système éducatif allemand, et notamment dans les lycées professionnels et techniques.
Les gens dans les lycées professionnels et techniques, en tout cas dans le Brandenburg ou à Berlin, là où on a été, n'ont aucune offre pédagogique. On leur propose rien sur l'Europe jusqu'à l'âge de voter. On ne leur donne pas ce moment européen où on leur dirait « voici ce que c'est que la politique, voici où est l'Allemagne, voici comment se passent les relations entre votre pays et l'Union européenne, et voilà comment se prennent les décisions ». Il ne faut vraiment pas grand-chose pour entrer dans un dialogue avec des jeunes de 18-19 ans, de lycée professionnel et technique. Quand on leur explique ce que c'est que la politique et ce que ça veut dire dans leur existence de tous les jours, un, ils ont un avis. Deux, ils sont intéressés. Trois, ils ont envie d'en savoir plus. Alors, allons-y.
Le manque d'informations, en particulier sur l'Europe et sur l'Union européenne, ça concerne les jeunes, ça concerne en fait toutes les tranches d'âge. Les gens sont mal informés sur l'Union européenne et sur aussi ce qu'apporte leur vote, en fin de compte. D'où souvent aussi la tendance du vote sanction contre les gouvernements. Comment expliquer que l'Europe soit si mal comprise par les citoyens ?
Parce que c'est complexe et parce que personne ne se donne le mal de vulgariser le savoir. C'est compliqué, il ne faut pas se leurrer. Et si on veut trop simplifier, il est bien clair aussi qu'on va dire des choses fausses. Mais il faut faire attention. En revanche, le travail de vulgarisation pour le citoyen et de l'éducation à l'Europe et au fonctionnement des institutions européennes, parce que ce n'est pas que l'Europe, c'est aussi le fonctionnement des institutions européennes, dès le plus jeune âge, c'est un effort qu'il faut faire. On ne peut pas s'épargner cet effort parce que les conséquences politiques sont trop graves.
Les ateliers menés par l'organisation dans les écoles de la région de Berlin ont permis d'expliquer les institutions européennes, mais elles ont aussi surtout offert un rare espace de dialogue entre les jeunes.
Ils étaient très à l'écoute des opinions des autres. Ces jeunes n'ont pas d'endroit public où se rencontrer et où échanger les idées. Ils sont souvent seuls face aux réseaux sociaux ou avec les réseaux sociaux, s'informent là, mais il n'y a pas de plateforme. L'école n'est pas une plateforme où on parle d'idées politiques. Qu'est-ce que tu penses de ci? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et ils sont très, très demandeurs. On l'a vu, ils étaient au bout de 5 minutes, la discussion était très, très enflammée, mais enflammée au bon sens du terme. Elle était aussi constructive, les gens s'écoutent.
Et sur quel genre de sujet?
Le climat, les inégalités sociales. Les inégalités sociales, c'est un sujet qui les préoccupe.
C'est le parti des Grünen, les Verts, qui a eu le plus de succès auprès des jeunes Allemands. Environ 30% des moins de 30 ans ont donné leur vote aux écologistes. Ces derniers mois, les préoccupations climatiques ont été au devant de la scène en Allemagne, avec le passage de la jeune Greta Thunberg et le succès des manifestations de lycéens Fridays for Future, largement relayées sur les réseaux sociaux. Il y a eu aussi cette vidéo, diffusée une semaine avant les élections par un célèbre YouTuber, Rezo, appelant explicitement à ne pas voter pour les partis traditionnels, CDU, CSU d'Angela Merkel et SPD social-démocrate, en raison notamment de leur politique environnementale. Une contribution qui a entraîné un petit séisme politico-médiatique.
Ça ne peut pas ne pas avoir eu un effet, dans la mesure où cette vidéo a été vue 11 millions de fois avant les élections. Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle a eu un tel effet? Elle a été aussi relayée par les médias traditionnels. Ça a eu un écho particulièrement parce que, aussi, les partis traditionnels attaqués dans cette vidéo y ont répondu. Et ça a permis de créer une forme de débat. Hors de la bulle YouTube et hors de la bulle des partis traditionnels qui sont aussi dans une forme de bulle, de perception, un espèce d'espace commun.
Est-ce que les YouTubers, on voit l'influence grandissante de ces stars de YouTube et qui font aussi du bon travail, puisque c'est pas seulement un effet de mode. Est-ce qu'il faut compter sur cette influence grandissante et de quelle manière on peut les prendre en compte aussi pour l'éducation citoyenne à l'avenir?
Je crois que Rezo en particulier a eu un impact tout particulier, tout simplement parce que aussi ce n'est pas un YouTuber politique. Il n'est pas dans la niche politique. Sur YouTube, il fait autre chose. Il est en particulier, il s'occupe de musique. Et donc, il a un public. Et je crois que c'est là qu'il a eu un impact particulier. Il y a des YouTubeurs politiques, mais ils ont un public qui est déjà intéressé à la politique. Là, avec Rezo, il a fait un carton, en quelque sorte, parce que son public, qu'il a fidélisé au fil des années, c'est un public qui n'est pas un public politique normalement et à qui il a tendu la main en disant « Hey, intéressez-vous maintenant à cela ». En cela, il a une influence, je pense, considérable sur un auditoire qui n'était pas, a priori, proche de la politique. Spotify a, la semaine dernière, une page d'accueil qui était « Ce sont les élections européennes, pensez-y ».
Facebook aussi, d'ailleurs.
Oui, mais Spotify n'a rien à voir avec la politique. Rien du tout. C'est pas là où on s'informe, c'est là où on va écouter de la musique. Et en faisant de cet appel ou de cette information qu'il y allait avoir un vote sur sa page d'accueil, a ainsi aussi joué un rôle d'information citoyenne. Je dirais pas politique, parce que politique, ça suppose déjà une prise de parti partisane, mais simplement d'éducation civique, il y a un vote.
Alors, puisque les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans l'information des jeunes et des moins jeunes, Claire Sayour estime qu'il faut aller chercher les citoyens là où ils se trouvent.
Nous, on a fait une bonne partie de notre campagne sur Instagram. Pourquoi? Parce que c'est là où sont les gens. Nous avons rencontré quelques influenceurs aussi sur YouTube et Instagram, qui sont des gens qui font complètement autre chose. Par exemple, influenceurs de mode, de yoga, des gens qui sont entourés de stars. Mais pour qui la question politique ou la question européenne n'est pas du tout indifférente et qui se sont engagés pour ça. Et je crois que c'est là vraiment que ça se joue, quand tout le monde, collectivement, prend la responsabilité de recréer sur les médias dans lesquels ils sont un espace public de discussion.
À noter que la vidéo de Rezo n'a pas fini de faire des remous. La chef du parti chrétien-démocrate Annegret Kramp-Karrenbauer, surnommée AKK, a critiqué la campagne de dénigrement engagée par le YouTuber et surtout le moment choisi pour la diffusion de sa vidéo en pleine campagne électorale. Elle a estimé que les règles de retenue en vigueur dans les médias devraient être appliquées au monde numérique. Des propos qui lui ont valu la première place dans les tendances du réseau social Twitter, associé à des hashtags comme « censure » et « AKK démission ». We'll be right back. Je vous le disais en début d'émission, ces élections européennes ont entraîné un raz-de-marée politique dans plusieurs pays européens. En Grèce, elles ont eu raison du gouvernement de gauche d'Alexis Tsipras, qui avait pourtant tenté de regagner la confiance des électeurs en faisant adopter au Parlement début mai une baisse des impôts et une hausse des retraites. Cela n'a pas suffi pour séduire les électeurs lassés de 5 ans d'austérité. Ils n'ont accordé que 24% des voix au parti Syriza d'Alexis Tsipras. Le Premier ministre a attendu presque minuit dimanche dernier, quand son échec électoral ne faisait plus de doute, pour annoncer à la surprise générale la tenue d'élections législatives anticipées pour le 7 juillet. « Nous avons perdu une bataille, mais pas la guerre », a-t-il déclaré le lendemain devant son parti. Une bataille ouvertement lancée contre la droite qui radicalise le pays et confirme le retour du bipartisme en Grèce. Depuis Athènes, le récit de notre correspondant Thomas Iacobi.
Le visage fermé, il a attendu presque minuit pour s'adresser aux Grecs et leur dire qu'il va demander la tenue d'élections anticipées. Elles étaient attendues, à ceci près que les Grecs pensaient y avoir droit si la fourchette entre l'opposition conservatrice et le parti au pouvoir, le Syriza, était de moins de 5%, comme annoncé par les sondages le jeudi précédent les européennes. À 8% d'écart des néolibéraux conservateurs de la nouvelle démocratie, l'échec de Tsipras aux élections de dimanche dernier, qu'il avait transformé en un vote de confiance, doit être, selon l'analyste politique Ilias Nikolakopoulos, nuancé.
Si nous prenons en considération la totalité de l'éventail politique et le fait que Syriza a obtenu un résultat à peu près semblable à celui de 2014, on ne peut pas le désigner comme perdant des élections. Il a certes perdu le pari lancé qui était le vote de confiance demandé, et dans ce sens, il est perdant, mais sur fond de la totalité des résultats des partis, je dirais qu'il a obtenu un score respectable.
En provoquant des élections anticipées, Alexis Tsipras joue un va-tout politique. Le même qu'en septembre 2015, où malgré le refus des Grecs par voie référendaire à toute poursuite de l'austérité, en juillet 2015, il a signé pour un quatrième mémorandum d'austérité. À l'époque, il avait, à mi-mandat, précipité les législatives, remporté contre toute attente haut la main. Mais depuis, il y a eu 4 ans d'austérité supplémentaire et beaucoup de trahisons pour les électeurs de gauche. Michalis, la cinquantaine, rencontrée dans le quartier anti-autoritaire d'Exarchia, en plein centre-ville, est toujours en colère.
Je vais aller voter, oui, pour le moins dangereux. C'est le seul choix que j'ai, voter pour celui qui est un peu mieux que les autres, celui en qui j'ai le plus confiance. Ici, on n'a pas de bons politiques. Les politiciens, c'est la même merde de couleurs différentes. Tous, et on vote pour celle qui sent le moins mauvais, c'est tout.
Plus que l'absence d'alternative politique, ce qui inquiète Ioana, 28 ans, journaliste, rencontrée face au Parlement le soir des élections, c'est le virage à droite et extrême droite de la société grecque.
Bien que le pourcentage d'aube dorée ait baissé, on observe une montée du parti de M. Velopoulos, qui défend à peu près les mêmes valeurs qu'aube dorée, sans qu'il dise ouvertement qu'il est un parti fasciste. À côté de cela, les conservateurs ont largement gagné aussi, et il est évident que la société grecque vire à droite. Elle est, en fait, profondément conservatrice.
Le lendemain du scrutin, Calliope, mère de 3 enfants, 56 ans, nous confie, en faisant son marché, que tout en étant de gauche, elle ne sait pas quoi faire pour ses législatives anticipées.
Pour dire la vérité, j'ai très mal quand je vois tous les rêves de la gauche que Tsipras a trahis. D'un autre côté, je vois aussi les 2 millions de chômeurs et indigents qui peuvent se faire soigner dans les hôpitaux, et les plus pauvres qui bénéficient de quelques aides, tout comme les jeunes. Et aussi, je me dis qu'ils méritent peut-être aussi d'avoir pour une fois l'occasion de gouverner dans des conditions normales, sans créanciers et mémorandums sur le dos, bien que nous soyons sous tutelle jusqu'en 2052. S'il remporte ces élections, il aura les mains un peu plus libres qu'auparavant. Et avant tout, il vaut mieux que ce soit lui qui gagne plutôt que Mitsotakis. Sinon, on est en plein dans le népotisme politique ultra-libéral. Une famille va régner et on n'aura pas fini d'en baver.
Les Grecs vont avoir un mois à peine pour se décider. La logique voudrait que les conservateurs l'emportent à nouveau, mais rien n'est moins sûr, car Tsipras va probablement à nouveau ouvrir les mannes financières du pays à des fins électoralistes. En face, les conservateurs ne promettent qu'une seule chose, un retour en force de l'ultralibéralisme, ce qui peut faire la différence pour ces législatives. Et c'est là-dessus que mise Alexis Tsipras. Une chose est sûre, le bipartisme revient en force en Grèce, et malgré la baisse significative du score du parti néo-nazi d'Obdoré, qui passe de 9,4 à 4,8%, l'extrême droite est en très nette hausse en Grèce, car les électeurs perdus d'Aube Dorée se retrouvent dans différents partis d'extrême droite et que 13,3% des jeunes de 17 à 25 ans ont voté pour Aube Dorée. Thomas Jacobi à Athènes pour la Deutsche Welle.
C'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. J'espère que vous aurez apprécié ces variations autour de l'hymne européen, d'une version plutôt classique à une autre plus rock'n'roll de l'Ode à la joie, Andy Freude, composée en 1786 par le grand Ludwig von Beethoven. Et je vous en garde une autre pour la fin de ce magazine. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss! One family. Charge your wonder spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. How we're fighting now, we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a giant with your legs, what a flash to divine. Everyone is getting brothers when your wings spread wide. Through all you're coming, you're the destiny. So let us all unite eternally. This is a truly historic occasion. Nous avons triomphé. So many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudiced minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility, it's a shame. But now we are new, now we are free. The rightful kids of ancient history. Peace to the nations, we are our friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now, we've been standing as one. The most exciting thing that we had just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family. Spark divine, sweet baby daughter out of paradise. I will find you now, we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a giant with your legs, what a flash to divide. Everyone is getting brothers when your wings spread wide. Through all we are coming, you're the destiny. So let us all unite eternally. Et notre travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude. Es bedeutet viel, die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden. Democratic institution on this ancient continent of Europe. Foundation of something new and hopeful in European life.